prolongation. Skinner s'échange au cercle gauche. À la ligne bleue, Ristolainen tire appuyé. Arène Niemi, un deuxième, Malik éclate. Niemi n'a plus de bâton. Il est touché, le tir est court.
Skinner.
Et c'est la victoire des Sabres de Buffalo.
Et Jeff Skinner qui marquait son deuxième filet de la rencontre, lui qui en compte maintenant 17. Il a marqué deux buts dans ce match-là. Philippe Quentin est avec nous. Salut Philippe.
Salut Jérémy. Pas de mauvaise acquisition pour les Sabres.
Aïe, aïe, aïe. Non, ça vaut la peine dans cette défaite du Canadien 3-2 en prolongation face aux Sabres de Buffalo. Skinner, comme tu le mentionnes, qui fait encore une fois, qui fait la différence. Comment t'as analysé ce match, Philippe?
Ben, une belle performance du Canadien, mais je pense que c'est une équipe comme celle-là qui va parfois nous surprendre, parfois nous décevoir un peu. C'est une équipe qui est en reconstruction. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ce mot-là, même si le Canadien semble hésiter à le faire. On est chez le Canadien dans une période de transition. Et une équipe en transition, ben, c'est une équipe qui, je pense pas que le Canadien va participer aux séries éliminatoires cette saison, mais je pense qu'il faut regarder à ce moment-ci ce qu'il y a de positif dans l'équipe parce que pour la première fois depuis longtemps, on sent un plan chez le Canadien, on sent qu'il y a un virage chez le Canadien. Et moi, je veux bien là, qu'on analyse chacun des matchs, puis j'aime ça le faire, puis j'aime ça entendre les commentaires de tout un chacun après les rencontres. Mais j'essaie de prendre peut-être, là, aujourd'hui, peut-être une bonne journée pour le faire, Jérémy, une perspective un peu plus globale. Là. Si on oublie la déception après la défaite au New Jersey, puis aujourd'hui, ben, c'est un point qui est un peu bêtement échappé là, avec le but égalisateur chez les Sabres en toute fin de troisième période et ensuite la défaite en prolongation. Il en reste pas moins que quand on regarde la date, le 23 novembre, tu regardes le chemin parcouru par le Canadien dans les dernières semaines, dans les derniers mois, et si tu compares où en était l'équipe le 23 novembre de l'an dernier, c'est deux mondes.
Okay.
Et ça, je pense qu'il faut le rappeler, il faut le dire, c'est une équipe qui, pour la première fois depuis 3 ans, à mon avis, s'en va dans la bonne direction.
Sauf que, je pense, et permets-moi d'utiliser encore ton expression, prenons un pas de recul sur le Canadien au lieu d'analyser match par match. Je pense qu'il y a beaucoup d'instabilité en défensive chez les Canadiens.
Ouais.
Il faudra que ça arrête parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas demander à des joueurs qui n'ont peut-être pas le talent d'être des top 4 dans la Ligue nationale, outre Jeff Petrie, évidemment. Tu ne peux pas demander à ces gars-là de jouer toujours sous la pression, d'avoir peur de ne pas être du prochain match si on commet une faute sur la patinoire. Il va falloir un peu plus de stabilité.
Oui, tu as bien raison, mais je pense que c'était impossible de régler tous les problèmes en un seul été. Cette organisation-là, à mon avis, repart de loin. Je pense que ça a été un peu d'inaction là, au niveau de la gestion de l'équipe. Il n'y a pas eu des bons gestes qui ont été posés dans les dernières années avant l'été dernier, quand il y a eu, on sent, là, une reprise en main. Et ça, l'équipe en paie le prix. Donc, il y a du travail à faire. On parle depuis très longtemps, depuis des années, en fait, de la ligne de centre du Canadien. Pour la première fois aujourd'hui, on commence à voir des solutions. On voit qu'il y a un avenir à cette position. Là, puis pour les défenseurs, il va falloir faire quelque chose également. Maintenant, tu sais, tu posais tantôt, tu en discutais avec Benoît, puis peut-être avec Martin un petit peu aussi, quel va être l'impact de l'arrivée de Shea Weber. Encore une fois, je pense qu'il faut être prudent. Là. Shea Weber est rendu à 33 ans, il n'a pas joué depuis longtemps. Et puis l'an dernier, quand il était là, l'équipe a connu des ennuis aussi. Là. Ça a été une saison difficile. Je comprends qu'il a été blessé, mais il était là en début de saison. Et puis ça a été complexe. Alors, je pense que Weber va contribuer très certainement à solidifier un peu les choses, mais je ne pense pas qu'il va transformer la défensive de l'équipe.
La seule chose, selon moi, ce qui va arriver, c'est que Shea Weber va donner une plus-value à l'avantage numérique.
Ouais.
Là, on pourra voir une différence immédiate, selon moi. Peut-être pas sur le jeu défensif, mais sur l'avantage numérique, ça va faire une différence immédiatement.
Ben, c'est sûr. Son lancer, sa présence, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Ça va être un gros, gros plus, puis ça va donner beaucoup plus de possibilités à l'attaque du Canadien avec l'avantage d'un homme. Mais encore une fois, c'est le problème principal à l'heure actuelle, c'est le jeu de puissance en est un, mais c'est plutôt la défensive. Et de ce côté-là, il va certainement solidifier. Mais il ne faut pas se compter de peur. Là. Chez Weber, ce n'est pas le défenseur nouvelle génération qui relance rapidement l'attaque puis qui va vraiment appuyer les siens. C'est un défenseur qui joue sa position, qui surprend pas son gardien de but. Ça, Carey Price va aimer ça. Et donc, qui va contribuer de ce côté-là à apporter de la solidification. solidité à la défensive. Mais encore une fois, moi, j'encourage tout le monde à avoir des attentes, pas des attentes modestes, je ne dirais pas modestes. Il va jouer beaucoup de minutes, puis ça va être très important, mais peut-être pas des attentes excessives.
Philippe, si on a pris un pas de recul sur le Canadien, est-ce qu'on peut, quelques instants, prendre un pas de recul sur les Sabres de Buffalo? Quelle histoire, quand même! Les Sabres de Buffalo qui allaient nulle part, voilà quoi, une année ou deux. Ouais. On se ramasse avec un club rempli de talent. Les gens là-bas festoient, les gradins sont remplis à pleine capacité. Félicitations à la famille Pegula qui a investi tellement d'argent là-dedans. On a voulu de la stabilité et on a du talent en plus. Vraiment, c'est une belle histoire ce qui se passe à Buffalo.
Oui, puis tu sais, tu mentionnes qu'il y a du monde dans les gradins. La beauté de l'histoire, c'est que dans toutes leurs années de misère, il y a quand même eu du monde dans les gradins. C'est un sacré bon marché de hockey de Buffalo parce que tu regardes cette équipe-là qui a déçu saison après saison. Il n'y a rien qui a fonctionné. Puis malgré tout, les fans des Sabres sont restés fidèles à leur équipe. Moi, je trouve ça quand même assez admirable. Et de voir aujourd'hui qu'enfin, ces fans-là vont être récompensés avec une équipe qui est très excitante puis qui est pleine de potentiel et du potentiel à long terme en plus. Là, parce que quand tu as des gars comme Rasmus Dahlin puis Jack Eichel, là, t'es vraiment en voiture pour quelques années. Alors ça, c'est très, très réconfortant. Puis je trouve ça le fun de voir que cette équipe-là, cette organisation-là sort enfin de la misère. Et puis c'est drôle parce que l'an dernier, souviens-toi, tout le monde se demandait si Phil Housley serait capable de faire le travail comme entraîneur. Il y a eu beaucoup de doutes. Ils ont eu tellement d'ennuis l'an dernier. Il semblait, des fois, l'équipe était un peu mollassonne aussi. Tu te demandais s'il exerçait vraiment son leadership, Housley. Et cette année, il semble avoir quand même réussi à trouver un certain nombre de paramètres gagnants. Là, et l'équipe va bien. Mais encore une fois, de voir cette organisation-là, qui est une organisation, tu sais, qui a quand même un riche passé. Là. Quand tu penses, il y a eu des très bons joueurs qui ont joué avec les Sabres de Buffalo, bien sûr, dès le début avec Gilbert Perreault puis la French Connection, Richard Martin qui en faisait partie. Tu sais, c'est René Robert. Ça a été vraiment une grosse concession. Malheureusement, ils n'ont jamais remporté la Coupe Stanley. Mais là, de voir qu'enfin qu'ils émergent, surtout là, après les 10 dernières années où ça a été très difficile, je trouve ça extrêmement sain et extrêmement encourageant.
Si on dit que Buffalo, c'est un bon marché de hockey, que dire de celui d'Ottawa? C'est un marché tumultueux. Et là, peut-être juste pour préciser aux gens, là, tout récemment, on savait que le lieu où on veut bâtir le nouvel amphithéâtre, eh bien, on a dit si d'ici janvier, vous n'arrivez pas à mettre en branle le projet, on va libérer le terrain, on va le donner à des nouveaux investisseurs. Mais là, une nouvelle tuile tombe sur Eugene Melnyk et son groupe de partenariat pour mettre en place l'amphithéâtre. Qu'est-ce qui se passe au juste?
Bien, la commission de la Capitale-Nationale à Ottawa, c'est elle qui est chargée de prendre des décisions pour développer ce terrain-là à Ottawa, là, qu'on appelle les Plaines Le Breton. Et il y a eu un appel d'offres il y a plusieurs mois où c'est un consortium formé d'un groupe composé d'une compagnie contrôlée par Eugene Melnyk et d'une autre qui est dirigée par un homme qui s'appelle John Rudy et qui s'appelle le Trinity Development Group. Et les deux ensemble ont bâti un projet et puis on dit, nous, on va développer ce quartier-là. Alors là, il faut qu'ils s'entendent sur les paramètres ensemble et puis qu'il y aille voir la commission de la Capitale-Nationale puis que tout le monde s'entende sur un projet qui pourra voir le jour. Alors là, ce qui arrive, ce que la commission de la Capitale-Nationale d'Ottawa nous a appris cette semaine, c'est que ça ne fonctionne pas entre les deux partenaires. Alors les deux partenaires qui se sont associés puis qui ont dit, hey, on va travailler ensemble pour développer ce terrain-là, ben ils ne s'entendent pas, des problèmes de gouvernance, les détails ne sont pas très clairs, au point où la commission de la Capitale-Nationale dit, écoutez, on vous donne jusqu'au mois de janvier pour vous entendre parce que nous, on ne peut pas continuer comme ça. Alors, ça a été un développement vraiment un peu inattendu, mais surtout très, très inquiétant à Ottawa cette semaine quand on nous a appris ça. Et là, aujourd'hui, la nouvelle la plus récente, c'est que là, tout ça va se retrouver devant les tribunaux avec la compagnie d'Eugene Melnyk qui, selon les dépêches de presse, va poursuivre le partenaire pour 700 millions de dollars. Alors là, quand tu es rendu, Jérémy, devant les tribunaux, dans un projet où tes deux partenaires qui doivent travailler ensemble, c'est que ça va vraiment pas bien. Et là, l'information sort quand même un petit peu au compte-gouttes, là, à savoir qu'est-ce qui a créé exactement ce différend très important entre les deux partenaires. On en saura sûrement davantage au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Mais oublions ça un moment là, et concentrons-nous uniquement sur la situation des sénateurs d'Ottawa. tout va mal à Ottawa depuis qu'ils ont eu ce si beau parcours éliminatoire là, quand ils avaient été quand ils sont passés à un cheveu d'atteindre la finale de la Coupe Stanley. Et depuis ce temps-là, ça va mal, le départ d'Eric Carson, bien sûr toutes les histoires qu'on connaît là, qui ont miné l'esprit d'équipe. Mais ça, le problème le plus important, je pense que c'est celui de l'amphithéâtre, parce que ça, c'est un problème à long terme. C'est pas une question que tu peux régler en échangeant un joueur ou, tu sais, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et là, quand tu réussis pas à t'entendre là-dessus, là, la situation commence à chauffer. Est-ce que ça veut dire automatiquement que les Sénateurs d'Ottawa sont dans l'eau bouillante puis qui vont déménager bientôt? Je ne pense pas. Je pense qu'on peut pas aller là. D'abord, il y a une échéance. Là, on sait pas qu'est-ce qui va arriver d'ici le mois de janvier. Puis on a vu aussi dans le passé, dans plusieurs villes où il y a eu des problèmes qui semblaient insolubles et ça s'est réglé. Mais pas partout, par exemple. Souviens-toi à Québec, au milieu des années 90, pour sauver les Nordiques, l'idée de construire un nouvel amphithéâtre n'a jamais rallié les décideurs et les Nordiques ont quitté pour le Colorado. Ça a été la même chose pour les Expos ici au baseball là, à Montréal. Par contre, dans d'autres villes, ça a été très difficile. Je pense à Edmonton, où il y a eu des passes d'armes entre la direction des Oilers d'Edmonton et la mairie et le maire de la ville. Ça a duré des mois et des mois et des mois. Tout le monde pensait que c'était terminé, que les Oilers, on ne savait pas trop ce qui allait arriver avec cette organisation-là. Et tout à coup, ben, comme par magie, il y a eu une entente. Ils ont construit un fabuleux amphithéâtre et même s'ils sont décevants sur la glace, l'aspect business est réglé. Alors là, tu as deux situations assez délicates dans la Ligue nationale à l'heure actuelle. Tu as celle d'Ottawa et tu as celle de Calgary aussi. Mm-hmm. Parce que Calgary, on n'a pas beaucoup avancé sur le dossier du nouvel amphithéâtre, même si, dit-on, les pourparlers ont repris entre la ville et les Flames, mais ça semble pas être encore à un niveau hiérarchique très élevé. Je lisais un commentaire récemment du maire de Calgary, M. Nenshi, qui disait que lui s'en mêlait pas encore, qu'il préférait laisser d'autres personnes faire avancer le dossier. On verra bien ce que ça va donner, mais c'est quand même problématique pour ces deux organisations-là.
Philippe Quentin, on n'a pas eu le temps de parler de Phil Mickelson et Tiger Woods qui se sont disputés des 200 000 $ pour un birdie, qui se sont disputés un 100 000 $ pour être plus près du fagnon. Mais écoute,
c'est spécial.
Avec peu d'intérêt. Hein. Ouais, 9 millions quand même, 9 millions mine de rien entre les deux.
Ouais,
hein.
Ouais. C'est beaucoup d'argent pour deux gars qui ont énormément déçu à la Coupe Ryder.
Écoute, malheureusement, je vais te dire une chose, c'est que j'aurais aimé vivre l'expérience entre les deux, mais quand je vois qu'on se distribue des 200 000, des 100 000 $ pour chaque trou, honnêtement, c'est pas le meilleur.
Il y a quelque chose là-dedans, moi aussi, qui me laisse profondément ambivalent.
Mais écoute, est-ce que ça sera la norme maintenant de voir ça, de ce genre de sport-spectacle-là?
Ben, c'est une très bonne question que tu poses là. Je pense pas. Moi, je pense pas que ça vraiment capte l'attention du public en général. Woods et Mickelson, puis aujourd'hui, là, d'après les commentaires que je lisais, ça n'a pas nécessairement été du gros golf, notamment sur le premier neuf. Je lisais sur ESPN, on disait que Woods était pas mal rouillé puis que ça a paru régulièrement. Mais j'ai l'impression que, tu sais, un tournoi, une compétition comme celle-là, je vois pas très concrètement ce que ça vient faire dans le golf. Au golf, ce sont les quatre majeurs qui prennent toute la place d'abord et avant tout. C'est ça qui est intéressant. La Coupe Ryder. Et moi, personnellement, cette initiative-là, ça me plaît pas beaucoup.
Philippe Quentin, toujours un plaisir. Merci d'avoir été avec nous.
Salut, Jérémy.
Merci, au revoir. On fait une courte pause au retour, direction Atlantic City. Jacques Thériault sera avec nous pour nous parler du combat entre Jean-Pascal et Dimitri Bivol. Et aujourd'hui, Jean-Pascal a été Jean-Pascal. On en parle au collègue Jérémy Filosa.